Aujourd'hui plus qu'hier, on se demande de quoi sera fait demain. Le lendemain n'est pas le problème, on vit au jour le jour. Cette phrase est issue du morceau du groupe I Am, Demain c'est loin, extrait de leur album L'école du micro d'argent, paru il y a pile 25 ans. Aujourd'hui, Pop & Co et Pop & I Am, soit une plongée dans le répertoire du groupe entre 1989 et 1997. L'histoire de jeunes Marseillais qui ont participé à l'invention et au renouvellement du rap français quand beaucoup pensaient qu'il s'agirait d'un phénomène surtout parisien. Quatre noms. Akhenaton, Shuriken, Kéops, Imhotep. Quatre garçons qui ont construit une bande-son ouverte à toutes les musiques, de l'Amérique à l'Asie en passant par la Méditerranée. Le parcours d'I Am est une épopée qui mêle chronique du quotidien, science-fiction, humour et politique. Un peu avant midi, on plongera dans une autre histoire, une histoire vraie, titre d'une chanson d'un garçon qui se fait appeler Chien Noir. Histoire vraie, ce matin, ces deux mots sont au pluriel. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Coucou, on se retrouve dans une poignée de secondes, juste après le générique.
7 avril 1990, c'est samedi, la télé est allumée sur FR3 Méditerranée. Trois jeunes gars de Marseille, qui avancent sous le nom d'I Am, sont les invités de l'émission... Attendez pour faire la vaisselle. Ce n'est pas un programme dédié aux arts ménagers, c'est le titre d'un magazine rock présenté par Thierry Bézère. Et ce jour-là, le sommaire de Attendez pour faire la vaisselle est consacré au rap.
Alors moi j'ai une question, la rue, déjà, c'est très important pour vous. Vous êtes souvent dans la rue,
ouais.
Au coin de la Canebière notamment, juste à côté d'un magasin d'hamburgers.
Ouais.
Je pense que ça leur fait pas tellement plaisir d'ailleurs. Vous faites pas peur aux gens?
Oui. Oui, beaucoup. D'ailleurs, on reçoit visite souvent de la police.
Ouais. C'est quoi qui fait peur aux gens? C'est la nationalité, la couleur de certains, tu crois?
C'est la couleur et le nombre. Bon, les gens sont plus ou moins effrayés par l'origine de certaines personnes. En plus, il y a un gros nombre, c'est-à-dire qu'il dépasse les 30.
Ouais. Ouais, effectivement, ça peut être quand même quelque part impressionnant. Au niveau du look, je sais pas, vous avez un look quand même assez particulier. J'aimerais vous montrer quelque chose, un très très gros plan. Vas-y, ouvre la bouche, fais un sourire meurtrier. T'as une fausse dent, non? Parce que c'est une fausse dent, non?
Ouais. C'est comme une... Il y en a qui mettent des bagues.
Ouais.
Mais moi, je mets la bague à la dent.
Ouais. Vous trouvez ça beau, vous?
Ouais.
Ouais. Ouais. Vraiment?
Ouais. Ouais, c'est beau.
Le noyau fondateur du hip-hop marseillais est né à la radio, dans les locaux d'une station qui s'appelait Radio Sprint. On est au milieu des années 80, Philippe Fragione, bientôt Akhenaton, et Eric Mazel, alias Kéops, se lancent dans le rap avec une formation qui ne s'appelait pas encore I Am. L'un des ancêtres du groupe, c'est B-Boy Stance, et ils font leur début ici.
Regarde notre force, ne le vois-tu pas, on est dangereux. Regarde notre force, ne le vois-tu pas, on est dangereux.
Nous étions alors en 1989.
Coucou.
Là, nous sommes en 2002.
Hop là.
C'est bon là.
On est bien.
Akhenaton, co-auteur et co-compositeur du groupe I Am, en ligne depuis son studio à Marseille et pour un aller simple à New York dans les années 80.
En fait, le premier voyage à New York, je l'ai fait seul parce que ça a été une sorte de récompense de ma tante à des bonnes notes que j'ai eues en seconde, je passais en première scientifique et elle m'avait dit, si tu travailles bien cette année, je te mène dans la famille aux États-Unis. Et j'écoutais déjà du rap, c'était en 1984, l'été 1984. Et je suis arrivé à New York et ça correspondait exactement au film que je me faisais dans ma tête, en fait. Et c'est une sorte de rêve américain, puisqu'on était vraiment une génération qui était très influencée musicalement par la culture américaine. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu ça, j'ai vu des groupes de b-boys qui dansaient, des mecs qui jouaient des drums dans la rue, la musique qui était à fond dans les magasins, dans les voitures. J'étais complètement scotché, en fait.
Savais-tu quelle heure il est sur le micro devant tes yeux? Quelle heure il est sur les platines MK2? Oui, tu le sais, je t'ai offert un chrono. Regarde-le. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?
Le hip-hop s'impose aux États-Unis, mais en France, il n'existe pas encore en tant que genre musical. L'objectif des premiers textes coécrits par Akhenaton, c'est affirmer la légitimité d'une culture nouvelle qui mêle danse, graphe, musique.
Ça a commencé très mal, hein, c'est-à-dire que vu que c'était de la soul et du disco alternatif, puisque on rappait sur des breaks de disques déjà existants, de soul ou de disco, il y avait une forme de non-légitimité qui disait, bah, mais c'est le rap, c'est le disco, c'est la soul des gens des quartiers pourris, des caves, et ça a déjà commencé comme ça. Et on était vraiment dans une période où on était à pop, pop, pop à fond, les années 80, c'était pas du tout ouvert au rap, et le rap a dû jouer des coudes pour exister. Il était question de le faire avec des textes, il était question de le faire avec des coups d'éclat, avec des habits aussi, avec des fringues. Avec des fringues très voyantes qui claquaient avec, et beaucoup de gens croient que le bling bling est un procédé ostentatoire pour montrer sa richesse. Ce n'est pas que ça. C'est à la fois la continuité d'un héritage africain, et le fait de dire j'appartiens à cette culture, regarde, j'existe, je suis là. Et c'est pas pour rien qu'on a choisi comme nom IAM. C'est pas un hasard, c'est dans la continuité de nos revendications, dans nos textes et de notre volonté d'existence culturelle en fait.
Ce n'est pas de la musique, voilà ce qu'ils disent, mais elle est ancrée en moi. Et quoi qu'il fasse, ils n'y échapperont pas comme la gangrène. Le rap les gagnera. Tant pis si vous n'aimez pas ça, je continue à rapper, même si vous n'écoutez pas, car j'ai la puissance. Donnée par mes ancêtres à ma naissance. C'est pourquoi je vous préviens d'avance. De me stopper, vous n'avez pas l'homme d'une chance.
1989, le groupe IAM est constitué avec Akhenaton, Khéops, Shuriken et Imhotep pour la conception des morceaux. À la fin de cette même année 89, paraît Concept, titre du premier album d'IAM, diffusé uniquement sur cassette, en 400 exemplaires.
Les hommes ont pour origine en fait la même, et il est temps de reconnaître que l'histoire actuelle est fausse et malhonnête.
Intervient en ces termes sentinelle universelle.
D'une main ferme, fuck, hein. Entends ma théorie, tu resteras blême au son de ces mots, devrais-je dire.
On l'a enregistré chez un membre du Massilation System, chez Jalaïd, dans son salon, mais aussi dans la cuisine de l'appartement où on habitait avec Khéops. J'avais ma tête sous le chauffe-eau quand je rappelais les textes de Concept. C'était assez bricolage comme procédé, mais qu'est-ce qu'on a pu rigoler, qu'est-ce qu'on s'est amusé à la faire. Ça a été un grand moment de divertissement. Et puis surtout, un moment où, pour aller deux jours en studio, c'était très cher, il fallait qu'on travaille, c'était très compliqué pour se payer deux jours de studio. Là, d'un coup, on faisait un morceau avec une cassette avec 12, 13, 14 morceaux qui étaient nos compositions et qui sortaient. C'était, ça a fait réellement le premier véritable album de l'histoire du rap français.
And I didn't stop, and I don't stop, and I won't stop to drop the sign.
Sur Concept, premier album de rap hexagonal, il y a des titres en français et en anglais.
You bug it, I sound different. I remain like the pharaoh keeper and the voice of the desert for Nidjala. C-H-I-L-F-U-H-I-L-X-L-L.
Check it out. On était tellement fourrés à New York qu'on avait cette influence-là. C'est pas les morceaux que j'affectionne. Je pense que Concept m'a fait réaliser qu'il fallait arrêter là, quoi. Vite. Et que un horizon s'ouvrait en français de possibilités d'écriture, de thèmes qu'on pouvait absolument pas aborder en anglais parce que notre vocabulaire ne le permettait pas. Dans le rap, on a une culture d'écriture, on écrit ses propres paroles. En plus, j'ai un profond amour pour des paroles assez complexes.
Quand les gens écoutent Concept, ils ne comprennent pas.
Je vous présente Mehdi Maizi, responsable hip-hop chez Apple Music France.
Quand les gens écoutent Concept, ils ne comprennent pas. Qui sont ces mecs-là? Et en plus, des mecs qui viennent de Marseille. Donc, c'est encore plus étrange à l'époque, puisque pour beaucoup de gens, le hip-hop est un petit peu une chasse gardée parisienne. En tout cas, c'est à Paris que s'inscrivent les premiers moments d'histoire du hip-hop français. Donc, là, il y a ces Marseillais qui sont en avance techniquement. Donc, tout ça est très déboussolant, je pense, pour le rap français de l'époque. Enfin, quand je dis rap français, ça n'existe même pas vraiment, en fait, en tant que scène encore. C'est vraiment les balbutiements. Eux sont déjà très au point.
Et donc, Akhenaton et Shuriken écrivent les textes. DJ Khéops trouve des vinyles au marché Opus pour insérer des phrases dans les morceaux. Imhotep, ancien instit, initie le groupe aux machines et prend part à la production de ce premier album de la planète Mars qui commence avec ce son de Derbouka.
L'album ouvre sur Pharaon revient. Pharaon revient, c'est de la musique classique arabe. C'est Mohamed Abdel Wahab. On a été vraiment sur ça, le premier groupe à rapper sur des percussions, des musiques complètement atypiques. Et je pense que cette ouverture d'esprit, elle vient de notre culture, de notre ville aussi. Parce que quand je remontais chez moi, je passais par la rue d'Aix, et la rue d'Aix, c'est là où il y avait toutes les musiques traditionnelles arabes, les musiques l'oraï. J'entendais toutes ces musiques-là et je me disais, mais on peut rapper dessus, c'est faisable. Et on l'a fait.
Musique arabe, musique indienne, et là...
Les tam-tams de l'Afrique.
Les percussions sont assurées par Souleyman Doumbia, musicien de Salif Keïta.
Jay-Z, rappelle-leur ma brother, qu'ils gardent une parcelle de leur cœur et que le sang qui a été versé ne l'a été que pour qu'ils puissent exister. Les enfants qui naissaient avaient leur destin tracé. Ils travailleraient dans les champs jusqu'à leur dernière journée. Pour eux pas de 4 heures, encore moins de récré. Leurs compagnons de chaque jour étaient la chaleur et le fouet. Sur leur passage on les fuyait comme le malin. En ces temps-là il y avait l'homme noir et l'être humain décrété supérieur de par sa blanche couleur, en oubliant tout simplement son malheur antérieur. Il assouvissait son instinct dominateur en s'abreuvant de lamentations, de cris, de tristes clameurs qui hantaient les forêts. Longtemps après son passage et l'esprit de ceux qui finissaient esclaves de génération en génération. Crime et destruction, le peuple noir a dû subir les pires abominations. Et le tempo libère mon imagination, me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton. Mais non, je ne suis pas raciste par mes opinions. Non pas de la critique mais une narration. Je raconte simplement ces contrées fantastiques et je garde dans mon cœur les tam-tams de l'Afrique.
Tam-tam de l'Afrique, à la fois pour célébrer le berceau de toutes les musiques et remettre en mémoire 4 siècles d'esclavage, rappé ici par Shuriken. Ayam, c'est 4 Français, dont un est né en Algérie, un autre issu d'une famille italienne et encore un autre dont les origines sont malgaches et réunionnaises. Dès son 2e album, Ayam n'écrit pas que sur la France et sur le présent. Mehdi Maizi.
Le groupe Ayam était déjà particulier de par... sa composition, de par les noms des rappeurs. Voilà, à l'époque, les rappeurs s'appelaient tous MC quelque chose. Voilà, donc eux, déjà, en s'appelant Akhenaton, Shuriken, Imhotep, Keops, il y avait déjà ce regard-là vers le passé, vers aussi une certaine culture. Ces gens qui sont beaucoup inspirés, déjà, vous parlez d'histoire, mais il y a presque aussi une dimension géographique dans le rap d'Ayam. C'est-à-dire qu'il y a un regard vers l'Afrique, vers l'Asie également, et vers les États-Unis, et vers la Méditerranée, bien sûr. Donc déjà, tout ça fait que c'est un groupe, effectivement, c'est vrai, qui n'a jamais regardé que son propre quartier marseillais. Ils ont toujours eu un regard vers le monde, déjà, premièrement, et aussi, c'est vrai, dans le rétroviseur, en parlant énormément d'histoire. Alors, sur l'esclavage et la colonisation, ils ne sont pas les seuls à l'avoir fait, notamment parce que je pense que l'esclavage, c'est déjà un thème qui avait été pas mal discuté, notamment dans le rap américain. La colonisation, bon, c'est un sujet qui est différent, qui est peut-être plus proche de nous, mais... Bon, ils sont aussi, je pense, inspirés de leurs héros. Voilà, dans les hip-hop aussi des années 80, il y a aussi un afrocentrisme des Américains qu'on retrouve très très vite chez Ayam, aussi bien dans leur thème, même que dans leur allure, que dans les chaînes avec les médaillons africains qu'ils vont porter dans les clips. Donc, effectivement, c'est vrai, il y a quelque chose de très tourné vers le passé, vers l'histoire. Et je pense qu'on est beaucoup d'auditeurs à avoir appris des choses en écoutant Ayam. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai qu'Ayam faisait partie de ces groupes qui pouvaient éduquer leur audience, de par ce qu'ils racontaient, mais aussi de par les mots qu'ils employaient. C'est vrai qu'ils avaient cette dimension-là, presque professorale.
Vous avez appris des trucs, vous, avec Ayam ?
Moi, j'ai appris plein de trucs avec Ayam. Alors déjà avec Ayam, mais aussi avec Akhenaton après en solo. Moi, je suis très... j'ai énormément écouté Akhenaton dans ma vie. Donc déjà, j'ai appris des mots. C'est-à-dire que je pense que la première fois que j'ai entendu le mot génuflexion, c'est dans la bouche d'Akhenaton. Par exemple, je m'en souviens très clairement, je suis allé chercher ça dans le dictionnaire après. Mais aussi, oui, bien sûr, dans ce qu'il racontait, c'est-à-dire que il faisait partie de ces gens-là où il fallait creuser. Il y a même parfois des morceaux que j'ai réellement compris des mois, voire des années plus tard. Donc oui, c'est un groupe qui avait cette dimension-là, tout à fait, qui même parfois pouvait être un peu cryptique dans ses références. Mais c'est ce qui était intéressant avec eux. Donc oui, moi, ils font vraiment partie des artistes qui m'ont éduqué, hein, honnêtement.
Et maintenant, un interlude. Disco Club, c'est le titre de ce morceau.
Eh bien bonsoir à tous et à toutes, bienvenue ce soir au New Star Flash Night Laser Light Action Club en compagnie de votre DJ préféré. Ok, alors un maximum d'ambiance garantie, vous êtes super soirée peine tropicale, avec bien sûr des cadeaux démons à gagner et à venir retirer la cabine sonore. On est là tout de suite avec la série Temps de Sentimental, le quart d'heure américain, alors attention les filles.
Oh tu vas t'arrêter, Billy. ta gueule.
Vis-à-vis des autres musiques, on était extrêmement moqueur.
Akhenaton.
Si on avait pu mettre toutes les conneries, on aurait pu faire un disque de conneries carrément au lieu de faire un disque de rap, parce qu'il y en avait tellement. Alors je sais pas si on a choisi les meilleurs, mais ça me fait rigoler parce que je revois les moments où on le fait. C'est l'ADN d'ailleurs, mais c'est l'ADN aussi de gamins de quartier à Marseille qui sont... C'est moi, de la communauté italienne, tu te fais couper en 20, hein. C'est impitoyable. Les pantalons larges au début, ça a été terrible. Ça faisait rigoler tout le monde. Mais voilà, ce côté de moquerie aussi, on l'avait en nous.
Si c'est une interview que vous voulez, je vais vous la donner.
Attendez, je déclenche ce magnéto là.
Tout d'abord, merci à Yann de m'avoir invité dans vos locaux pour cette petite interview, quoi. C'est pour un petit fanzine alternatif, c'est sympa, top. Ouais, s'il te plaît, un petit peu de thé, ouais. Merci.
De rien.
Ouais, alors la question que je me pose, c'est qu'aimez-vous faire dans la vie par-dessus tout, quoi.
Le matin, quand il pleut ou que le vent souffle fort, la température est basse, j'allais dehors. Bien couvert, je prends de l'élan, saute sur le siège. Arrière de la voiture et la pluie devient de la neige. Augmente le chauffage, attention, 800 km avant d'être à destination. Le ronflement du moteur, les gouttes sur le pare-brise. Mon corps est envahi par une torpeur exquise.
Moi je suis quelqu'un qui n'arrive pas à supporter de rester enfermé toute la journée. Je ne me sens bien qu'avec mon Walkman sur la tête, martelant l'asphalte à l'aise dans mes baskets. Je prends la face nord jusqu'à la rue Selfie. Je vois des gens, des amis, occupés à discuter, errer sans but précis, sans horaire à respecter. Musique dans les rues, juste pour le plaisir de balader.
Ouais, une petite question bizarre, mais qui en dit long sur la personne. Quelle est votre couleur préférée?
Pour moi, la singularité d'IAM, elle vient du fait que très vite, il y a eu beaucoup d'humour.
Et revoici Mehdi Maizi, responsable hip-hop d'Apple France.
Si vous regardez le rap français de l'époque, il est quand même très engagé. Alors, IAM aussi avait ce côté-là, avait ce côté engagé, mais le rap était assez politique, assez même parfois incandescent dans ce qu'il racontait. Enfin, il y avait quelque chose, il y avait une urgence. Là où IAM, il y avait à la fois peut-être un peu plus de recul, de hauteur parfois sur les thèmes, et puis aussi beaucoup de recul via du second degré. Il y a même des morceaux ouvertement marrants. Pour moi, leur singularité est là, c'est qu'ils ont très vite eu l'air à l'aise avec leur personnalité, avec leurs propositions. Mais ce côté humoristique, il est aussi, il vient aussi du rap américain, du rap new-yorkais, hein, des rappeurs américains qui avaient d'humour. Il y en avait déjà dans les années 80, les Beastie Boys, Biz Markie, ce genre de rappeurs. Donc eux sont vraiment des héritiers de ça. C'est là, à mon avis, où ils se sont distingués. Ils ont eu un ton un peu différent des autres.
Est-ce qu'IAM est un groupe de rap ou est-ce qu'IAM est un groupe de rap marseillais?
Réponse de Pascal Pérez, dit Imhotep, architecte sonore d'IAM.
Eh ben, je pense qu'on pourrait dire que IAM est un groupe marseillais de rap. Parce qu'à la limite, on ne pourrait pas faire la même chose ailleurs. C'est-à-dire, tu prends IAM, tu les mets à Paris, ça ne marche plus. Le fait qu'on soit ici, ça donne une couleur aussi bien à la musique qu'aux paroles. C'est spécifique de Marseille, il ne faut pas essayer de changer ça.
Ce soir, on vous met le feu. Ce soir, qu'est-ce qui va se passer, les gars?
IAM publie son troisième album, Ombre et Lumière, et s'ouvre sur le feu qui inclut ce chant de supporters du stade Vélodrome de Marseille, Akhenaton.
C'est l'époque aussi qui a voulu ça. Il faut voir qu'Ombre et Lumière est enregistré en 92. C'est les années où l'OM gagne la Coupe d'Europe, mais aussi et plusieurs fois en finale, en demi-finale. C'est une domination outrageuse de cette équipe-là sur le championnat français, mais aussi en Europe. C'est une équipe très compétitive et je pense ça a influencé notre création. Tout ce qui nous plaît, en fait, transpire dans nos morceaux. Et en fait, l'Égypte ou le Japon féodal ou la Chine ou les films asiatiques ou les films de Star Wars ou les BD de Marvel, c'est l'histoire de ma vie, Special Strange, Nova, Titan, toutes ces revues-là, j'ai tout racheté d'ailleurs. C'est vrai en plus, hein. On l'a toujours inclus dans nos paroles et donc ça fait partie de notre univers, on a été élevé avec ça.
Ombre et lumière, troisième album d'IAM, c'est l'histoire avec un grand H, autant que le quotidien de la vie du quartier. L'humour de quatre Marseillais, autant que l'actualité mondiale.
J'aurais pu croire en George Bush, mais voilà. Sa vision des USA ne me satisfait pas.
Dans Ombre et Lumière est un enfant de la guerre du Golfe, on va dire. C'est un pays qui compte beaucoup dans la civilisation, dans l'humanité. Et de voir les missiles qui sont abattus dessus, c'est quelque chose qui m'a traumatisé. Et surtout, j'avais envie de dire dans ce morceau-là, il n'y a pas l'axe du bien et l'axe du mal. Dès ce morceau-là, si tu écoutes bien, tout le monde en prend pour son grade.
Dites-moi, je voudrais savoir ce que ça vous fait de bombarder un pays qui a 6000 ans d'histoire. Rien pour les auteurs d'un génocide. Moi, j'aurais pu croire en Bush, mais je ne le crois pas.
J'aurais pu croire en Saddam, mais voilà. Sur le drapeau irakien, il a fait écrire là. Comment peux-tu faire ça après avoir persécuté, traqué les fervents musulmans pendant des années?
Saddam, tu ne me feras pas croire à moi que tu fais la prière en dehors des caméras. Sais-tu au moins qu'exhiber son portrait dans tous les coins est interdit par notre livre saint, le Coran?
Et tu blasphèmes, blasphème et blasphème, te prends pour Saladin, oubliant par là même qu'il était d'origine kurde, abusant ton peuple, manipulant les esprits à la guerre sainte appel.
La guerre sainte se dit en arabe al-jihad fi sabilillah, l'effort sur le chemin de Dieu. Un document du Vatican précise, le djihad n'est aucunement le kérem biblique. Il ne tend pas à l'extermination, mais à étendre à de nouvelles contrées les droits de Dieu et des hommes.
On m'avait dit quand j'étais gamin, j'espère que tu ne changeras pas en gagnant ta vie. Je suis encore plus incisif et plus en colère qu'avant, et plus désabusé aussi.
Mehdi Maizi.
Je pense que très vite... IAM a fait partie aussi de ces groupes-là qui sont réellement présentés comme un groupe politique. C'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, dans le rap actuel, c'est des choses qui sont devenues un peu désuètes. Mais eux, voilà, très vite, comment il y a eu des injonctions au gouvernement, à l'État, mais c'était aussi quelque chose qui était, je pense, présent dans le rap de l'époque.
Pourquoi c'est désuet aujourd'hui?
Pour plein de choses. Je pense que, alors je veux pas faire de la sociologie de comptoir, mais je pense que déjà, il y a sûrement un désenchantement vis-à-vis... Une, de la politique, deux, de l'état du monde. Je pense que les jeunes aujourd'hui, plus globalement, pas uniquement les rappeurs, ont sûrement l'impression que s'engager, c'est inutile, qu'aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose. Là où, à l'époque, on sent qu'il y a de l'espoir, même si il y a parfois un constat assez dur sur la société, il y avait toujours de l'espoir, il y avait toujours la volonté d'aller mieux demain. Aujourd'hui, est-ce que les gens croient encore qu'ils vont aller mieux demain? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de désenchantement et de désespoir également. Et puis, je parlais de rap politique. Dans le rap de l'époque, il y avait toujours le Front National comme épouvantail, comme ennemi ultime. Aujourd'hui, dans le rap actuel, il y a des rappeurs qui ont fait des chansons sur la beauté de Marion Maréchal Le Pen. Ça aurait été complètement impensable il y a 25 ans. Donc, voilà où on est. Je pense qu'il n'y a pas eu tout le même rapport à la politique. Tout ça nous semble beaucoup plus lointain et beaucoup plus inutile. Là où ces gens-là, parfois même, pouvaient appeler à voter pour des candidats, aujourd'hui, c'est complètement impossible, en fait.
Grillez. Qu'est-ce qu'il vous a pris de venir ici? Ce putain de quartier me suit pour leur prouver. Je devais voler des t-shirts, des serviettes, des sacs, je partais chargé. Et quand je n'étais pas à la cité, assis sur le banc, c'est le quartier qui venait m'étouffer comme un aimant. Ils nous ont envoyés en colonie, dans des stations alpines pour aller faire du ski. Au lieu de nous séparer, ils avaient gardé le quartier en troupe. Individuellement, on n'était pas des mauvais bourreaux, mais la mentalité de groupe s'exporte aussi fort qu'on la palpe. On a mis le feu aux Alpes.
Extrait du morceau L'Aimant, issu d'Ombre et Lumière. Avec ce disque, IAM publiait le premier double album de rap de l'histoire.
Je ne sais pas dans quelle mesure c'était quelque chose qui était, pensé à l'époque, comme on va être le premier album de l'histoire du rap, puisque dans le rap, il y a vraiment une tradition du double album, hein, dans le rap américain notamment. Alors aujourd'hui, avec le streaming, ça est un peu différent, puisque simple, double, triple, on peut mettre autant de morceaux qu'on veut sur les plateformes, mais pendant les années 90 et 2000, il y a vraiment une tradition du double album. Et tous les grands rappeurs doivent faire leur double album. Et les premiers à l'avoir fait, en tout cas, sont des Français, c'est IAM. Ça, c'est effectivement assez fou. Je pense que c'était important parce que il montrait aussi à cette époque-là qu'un groupe de rap pouvait faire ce qu'il voulait ou en tout cas imposer son format à la maison disque. On est quand même encore à ce moment-là au début du rap en tant qu'industrie commerciale. C'est pas encore prouvé que le rap ça va marcher quoi. Il y a effectivement eu quelques débuts de tubes, Benny B, MC Solar, mais c'est pas une industrie qui est solide encore. Donc qu'un groupe sur lequel on investit, on met de l'argent, qui dit on veut faire un double album, donc un projet qui va être très long, donc forcément plus dur à vendre, plus dur à faire comprendre aux gens, c'est une vraie profession de foi, en fait. Et en plus, dans un projet qui est à la fois dantesque extraordinaire, mais aussi ce qui aurait pu, pour un label, sembler caduque, parce qu'il y a des blagues, il y a des morceaux un peu festifs, il y a des morceaux plus durs, il y a des morceaux conscients, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cet album-là. Donc, pour moi, c'est important parce qu'il montre aussi une vraie liberté et, chez IAM, et aussi l'impression qu'ils savaient déjà où ils allaient aller, quoi. Et voilà, il y a toute l'ADN d'IAM et dans cet album-là.
Pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne à mort qui brille.
Ombre et Lumière est aussi l'album de ce tube-là. Je danse le Mia.
J'ai fada, je crée des gueux, je vous prenne tous ici et par eux.
Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle à nos trois temps en queue roulée autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins, Nebuloni. Dès qu'il passait, Caméo, Midnight Star, SOS Bond, Delegation ou Shalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps. Via Planète Marseille, je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bacar au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après, on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au palais des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur, pour elles, c'était moins rose.
Oh cousine, tu danses ou je t'explose?
Voilà comment tout s'aggravait. En un quart d'heure, le frère aura piqué.
Oh, comment tu parles à ma soeur?
Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière le cyprès. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. L'un disait, fils, y'a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent. Hop, dont je brille, je te bousille, tu te rhabilles. Et moi, je danse le Mia. Comme les voitures, c'était le défi K8-73. J'aime sans même mon petit, du grand voyou. À la plus grosse, mon vietnamien sur le volant. Avec la moquette, par un soleil pionnier sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros.
Sur mon père.
La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge à la Starsky. J'avais la nuque longue, Eric aussi, Malek, Coco, la coupe à la Marley, Pascal et Terrasta. Des afros sur François et Joe. Déjà à la danse, à côté des personnes, ne touchait une fille. On dansait le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia.
Sur Radio Chacal en duplex live avec le Star Flash Laser Light Action Club, c'est tout de suite 3, 2, 1, DJ.
Ah, merci à toutes et à toutes d'être avec nous ce soir encore au New Star Flash Laser Light Action Club. Nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musical avec un grand concours de danse. De nombreux super cadeaux pour les heureux gagnants. Il y aura des shorts Marlboro, des autocollants pionniers, des cassons JB, des peluches. À la technique, c'est Michel, de Light Jockey, c'est Momo. On monte sur les tables, on lève les bras bien haut, allez, c'est parti.
Je danse le Mia.
Bob & Co.
Je danse le Mia.
France Inter.
Je danse le Mia. Pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille.
Rebecca Manzoni.
Et ce matin, Pop & Co et IAM.
L'euphorie et la consécration. Un disque d'or, 100 000 albums vendus. Les enfants de Marseille ce soir-là étaient ivres de bonheur.
À tous les mecs du quartier, à tous les mecs du quartier,
c'est des poursuites.
Extrait du magazine Envoyé spécial diffusé sur Antenne 2 le 22 septembre 1994, suite au succès de l'album Ombre et Lumière, tandis que Je danse le Mia est devenu le tube de l'été. Akhenaton.
Ça a été très compliqué parce qu'on a eu l'impression que c'était devenu la BO du camping. Donc du coup, ça nous gonflait un peu. Le Mia, chante-nous le Mia, c'est bon. Nous, on arrive aux Victoires en musique, derrière, il pleure pour qu'on joue le Mia. On a joué ça chez Blanc direct, exprès pour remettre, dire oui, IAM, c'est le Mia, pas de souci, on assume. Mais IAM, c'est Femme Seule, Sachet Blanc, L'Aimant, Le Cosmos.
Mais d'ailleurs, l'écriture de l'école du micro d'argent, est-ce que c'était pas aussi pour dissiper le malentendu suite au carton du Mia?
Mais je pense qu'il y a eu ça. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que, en fait, l'école du micro d'argent, c'est l'aimant étendu à tout un album.
L'école du micro d'argent, quatrième album d'IAM, paraît en 1997. Pour la bande-son, le groupe continue ses explorations. Imhotep puise dans des disques de musique ethnique, édités par l'UNESCO, méditation bouddhiste au Japon, tambour argentin, chant inuit, Medimaisi.
Pour moi, l'école du micro d'argent, ça marque vraiment le début d'une hégémonie d'IAM et plus globalement du rap marseillais pendant 4 à 5 ans. C'est-à-dire que l'école du micro d'argent, ça marque vraiment le moment où ils sont partout. Ça marque vraiment un moment qui est assez fou et où Akhenaton, parce que je parle toujours de lui, parce que c'est vraiment le leader officieux de ce groupe-là, même de la scène marseillaise de l'époque, où lui, il va véritablement marcher sur l'eau. C'est phénoménal, vraiment. Pour moi, il invente une nouvelle manière de rapper en français, en fait.
Ce serait quoi, cette nouvelle manière de rapper ?
Avant ça, il n'y avait pas le même sens de, une, de la formule, donc dans la punchline, et aussi, comment dire, des assonances, des multisyllabiques. C'est-à-dire que le rap va commencer à rebondir. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire plusieurs rimes au sein d'une même ligne. Avant, souvent, les rimes, c'est à la fin, quoi. Là, ça rebondit de partout. On fait rimer parfois des mots qui ne sont même pas censés rimer ensemble, mais on va, par l'intonation, il va y avoir un autre groove qui va arriver aussi. Il y a quelque chose de, ça swing, quoi. Il y a presque un truc de jazzman parfois. Il y a un truc qui est beaucoup plus libre dans l'interprétation. Voilà. Il y a aussi une nouvelle manière de mettre en image des mots, de mettre des images dans la tête de l'auditeur qui arrive à ce moment-là. Et voilà. Et eux, ce qui est très fort, c'est qu'en fait, ils arrivent à faire cette mise à jour-là alors qu'ils sont déjà, ils rappent déjà depuis plus de 10 ans. C'est pas évident, hein. C'est comme un sportif, quoi, qui se remet en cause quand il voit, je sais pas, moi, de nouveaux joueurs de foot arriver avec de nouvelles techniques. Ben, faut réussir à se remettre en cause. Et c'est exactement ce que font les membres d'IAM à ce moment-là.
Sans pitié pour mater la rébellion, millénaire, salive empoisonnée, langue amère, un pilote V50 en tant que sabre laser. Quoi, ma conscience comme ma seule médaille, je traque et je tripe sans remords tous les chevaliers de Jedi. La haine monte en toi, je le sais parfaitement, je vois ta main droite gantée de noir. C'est sans espoir, la mutation s'amorce, ta nature que tu obtures le côté obscur de la force. Viens vers moi, passe le pont de part en part, rejoindre ma demeure dans la lune noire. Mars et l'Empire, je lance mes troupes à terre pour éradiquer ce nid de Jean-Claude Godin Skywalker. Petit présomptueux, ne vois-tu pas le nombre déployé? L'armée des ombres, tu seras éliminé. Au nom des forces mystiques qui habitent là dans mon cerveau, je ne donne pas cher de ta peau. Le souffle de la force est en moi, le microphone crépite, crache des tas de flammes sur les poils. Fils de Dieu, tremble mais lutte avec ses armes, renverse les credos qui lui semblent erronés, brise les traîtres de la tête au péroné. Par la peur, l'ennemi reste sclérosé. Longue vie au règne de la nuit, d'une théorie qui renverse les croyances établies.
Aide-moi.
Idiote, il est trop tard, tu appartiens au sinistre sombre seigneur vêtu de noir. Casque souffle rock sous une armure du soldat le plus dur de l'empire du côté obscur.
Obscur, la force est noire, c'est noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Obscur, la force est noire, c'est noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Obscur,
fais ce dernier pas en direction de la force obscure.
Le nom du groupe est anglais, IAM. Ses membres ont choisi de s'appeler comme des pharaons égyptiens et la pochette de cet album, L'école du micro d'argent, est une référence au film Ran, du japonais Akira Kurosawa. À la fin des années 90, l'image et les clips vont compter plus que jamais dans l'univers d'IAM.
Le budget d'un des clips de l'école du micro d'argent, c'est le budget qu'on a sur tout un album aujourd'hui. Donc, on a fait des clips en cinémascope, en Super 16, avec des moyens assez incroyables. Et l'imagerie a beaucoup joué dans le succès de cet album-là, hein, parce que le clip de la saga, de l'Empire du côté obscur, c'était quand même quelque chose. Hein.
Comment l'imagerie a compté, alors ? Quelle imagerie a compté ?
Je pense que le côté, justement, imaginaire et irréel de projeter le rap dans quelque chose qui n'est pas nécessairement qu'un plaidoyer d'éducateur de quartier et qui le fait rentrer dans quelque chose de beaucoup plus féerique et irréel ou dans des références culturelles différentes que celles du rap lui-même, c'est quelque chose qui a beaucoup participé. Et puis je pense que il y a toujours des références d'IAM comme ça qui sont des références culturelles, pas que d'IAM mais de toute une génération.
Comment s'est imposée cette formule, l'école du micro d'argent?
On était plein de potes dans une maison, on avait loué une maison dans les Pyrénées, il n'y avait pas un brin de neige, on était partis au ski tous ensemble. et est arrivé le soir du réveillon du jour de l'an, et on a fait une bataille de sarbacanes qui a duré de 22h jusqu'à 6h du matin. Et comme il y avait la moitié des mecs qui étaient ivres, et contre ceux qui buvaient pas, ben nous on a été l'école du micro d'argent, les mecs qui buvaient pas, contre l'école de la bouteille rose, ceux qui étaient complètement sous. La connerie, elle est partie de là. C'est-à-dire d'une bataille de sarbacanes. Et au lieu d'avoir l'école de la bouteille rose en face de nous, ben on avait l'école du micro en bois. Eh ouais. On est des grands imbéciles, mais beaucoup de choses chez IAM sont sorties de conneries, hein, en fait. C'est ça. C'est la réalité de ce groupe.
Mais en tout cas, l'école du micro d'argent, ça impose aussi une figure du rappeur en chevalier, avec un code de l'honneur.
Oui, un samouraï en fait. Il y a ce côté-là dans le rap, avec des codes et avec un code d'honneur. Et je pense qu'avec IAM, en tout cas, avec des erreurs, avec des mauvais choix, mais on a toujours eu ce code-là, jusqu'à aujourd'hui. Ce code de l'honneur, c'est respecter le navire culturel dans lequel on a embarqué. Et pas perdre son sang-froid pour essayer d'être à la mode, ou de marcher, ou de vendre des disques, ou de faire des clics, des likes, des je sais pas trop quoi.
On sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes. Petit frère le sait et garde ce fait en tête. L'argent lui ouvrirait les portes sur un ciel azur aussi facilement que ses tournevis ouvrent celles des voitures. Le grand standing et tout ce dont il a envie, ça passe mieux quand tu portes un Giorgio Armani. Soucieux du regard des gens, malgré son jeune âge, petit frère fume pour paraître plus grand. Il voudrait prendre l'autoroute de la fortune et ne se rend pas compte qu'il pourrait y laisser des plumes. Il vient à peine de sortir de son œuf. Et déjà petit frère, peut-être plus gros que le bœuf.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des portes de sept lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
Tout a été jeté à la poubelle. En tout cas, la première version de l'album L'école du micro d'argent, à l'exception de ce titre, Petit frère. Un morceau qui a été un maître étalon pour la recherche d'un son brut, martial, épique. Mehdi Maizi.
Il faut écouter Demain c'est loin. Enfin, Demain c'est loin est, pour moi, je dis sincèrement, le morceau ultime du rap français. Je pense pas que ça changera un jour. C'est-à-dire qu'en fait, si on me demande, si des aliens viennent me demander c'est quoi le rap français, je leur fais écouter Demain c'est loin. 9 minutes de rap pur, avec que des punchlines, il n'y a que ça. C'est écrit incroyablement bien et en même temps c'est un morceau qui dresse une réalité qui est extrêmement dure, hein, des quartiers de l'époque, qui est évidemment encore d'actualité malheureusement. Enfin, il y a trop de choses, j'ai même pas envie de mal le citer parce que ce serait un peu lui, ce serait faire offense à ce texte-là, mais les couplets, le premier couplet de Shuriken et celui d'Akhenaton sur Demain c'est loin, pour moi c'est ultime dans le rap français. Et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que souvent les punchlines, ça peut être vu comme des choses un peu grasses ou un peu potaches ou uniquement pour faire d'ego trip. Là, il n'y a pas d'ego trip dans ce morceau-là. C'est vraiment que des punchlines de réalité, en fait. Voilà, qui traduisent vraiment des réalités des quartiers. Donc c'est, ouais, je citerai Demain c'est loin, qui pour moi, encore aujourd'hui, est un morceau invaincu, en fait.
Tu sais de quoi je parle, moi, le bâtard. J'ai dû fêter mes 20 ans avec 3 bouteilles de Bad Star. Le spot cool ce soir, qui est le king d'entrée. Les murs sont réservés comme des places de parking. Mais qui peut comprendre la mène pleine que tu pas bouffe, frappe sec, poussé par la haine. Et qu'on ne n'est pas programmé pour faire un foin, je pense pas à demain, parce que demain c'est loin.
Pour clore ce Pop and IAM, je rappelle que Rimes Essentielles est le titre du dernier album du groupe. IAM sera en concert à la scène musicale pour le festival Chorus le 9 avril, au Printemps de Bourges le 21 avril, et vous trouverez d'autres dates sur le site de Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Tu me dis quand j'y vais ?
Bah en fait c'est maintenant. Il s'appelle Jean Grillet, son nom de scène c'est Chien Noir, et il choisit le prochain disque de Pop & Co avant qu'on soulève le capot d'une de ses chansons à lui. Jean Grillet, dit Chien Noir, DJ d'un seul et unique morceau pour Pop & Co.
Oui, alors je voulais prendre la chanson de Bertrand Belin, Que dalle tout. Est-ce que c'est possible ?
C'est comme si c'était fait. Que dalle tout est le premier extrait d'un nouvel album de Bertrand Belin, dont la sortie est prévue pour le 6 mai prochain.
On sent qu'en fait il a écrit jusqu'à arriver à ces deux mots, que dalle tout. On reconnaît en fait il y a un côté très étrange de Belin, mais aussi dansant.
vient d'une longue lignée d'ivrognes. Trouble fête, gâcheur de noces, épouvantail d'abrumus, maître de chiens, desquels j'ai hérité de tout et de rien. Je viens d'une longue lignée d'ivrognes, de rongeurs de frein, de tout sexe, seigneur de château renversé, cher à des dalles, desquels j'ai hérité de tout et que dalle. Que dalle, tout, 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 que dalle, tout, que dalle, tout. Je viens d'une longue lignée de zéro, de un, sentimentaux, sanguins, charmeurs. Serpent, figure locale, desquelles j'ai hérité de tout, que dalle.
J'ai dit beaucoup de bêtises dans les premières interviews que j'ai pu faire.
Je vous le présente à nouveau. Jean Gaillet, dit Chien Noir, parisien depuis peu, parce que bordelais pendant longtemps. Chien Noir est l'auteur d'un premier mini-album de 4 morceaux, et on recommence.
Je crois que j'ai dit beaucoup de bêtises dans les premières interviews que j'ai pu faire.
Genre.
Par exemple, j'ai grandi dans une maison très bizarre, un petit peu hantée. Et je me suis retrouvé à dire, à raconter ça, comme je suis en train de faire avec vous, en fait, Rebecca. Et en fait, c'est extrêmement embarrassant, parce qu'on passe pour quelqu'un d'assez étrange. En fait, il faut apprendre à cadrer ça.
Il faut apprendre à pas tout dire, en fait.
Voilà, c'est ça.
On va revenir là-dessus quand même. C'est quoi cette histoire de maison hantée ?
J'ai grandi dans une maison à la campagne, au milieu des vignes, dans la campagne bordelaise. Et c'est une très vieille maison qui est un peu toute guingois. C'est plus un bateau qu'une maison, hein. C'est-à-dire qu'elle grince beaucoup, le vent passe à travers, il y a beaucoup de bruit. Et dans mon imaginaire d'enfant, il y avait du monde, quoi. J'ai construit beaucoup de mon imaginaire d'adulte dans cette maison. J'étais pas tranquille le soir.
Dans cette maison, il y avait un piano sur lequel la mère de Jean apprenait à jouer. Assis à côté d'elle, il imitait ses gestes. Aujourd'hui, Jean Gaillet a 36 ans. Ses premières chansons, il les a écrites il y a longtemps.
J'avais 12 ans. Mes parents venaient de se séparer. Et moi, je venais d'acheter une guitare.
Mais alors, entre 12 ans et 36, pourquoi le disque a paru si tard ?
J'ai eu 1000 vies, en fait. Alors déjà, moi, je viens de la campagne, mais de la campagne vraiment très profonde. Par exemple, on n'avait pas Internet chez moi, on n'avait pas d'ordinateur. Et quand on vient de la campagne, dans un milieu très rural, c'est très difficile d'être capable de se dire « Je vais faire de la musique, je vais pouvoir en vivre, je vais écrire des chansons, et ça va être trop bien. » Déjà, il faut trouver le temps de convaincre les parents aussi, hein. Et puis, j'ai fait du vin. J'ai une formation de œnologie. Et puis j'ai fait plein de choses après. C'est-à-dire que j'ai fait du vin, mais j'ai... Et puis oui, j'ai une longue formation au conservatoire. Et je suis fier d'avoir fait ça.
Et puis co-écrire des chansons pour Vanessa Paradis ou Holly Seas, et publier un premier mini-album, et se faire repérer avec cette chanson-ci, Histoire vraie ou singulier, et être nommé aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation cette année. Chien Noir, c'est son pseudo, il est dans Pop & Co.
On a rêvé. La nuit est passée comme ça. On a marché. La terre a tourné au moins une fois. On s'est perdu dans des endroits qui ne nous parlaient pas. L'envers non plus, il y en a plein, des histoires comme ça. Il y a des histoires vraies qu'on raconte à voix basse. Il y a des histoires vraies quand la vie prend la place. Une fois la nuit tombée, que le ciel se casse.
Ça vous a fait quoi la première fois que vous avez entendu Histoire vraie, autrement qu'en décidant de l'écouter vous, quoi ?
Eh bien, c'était à la télé. C'était en plein milieu de Top Chef. Parce que, donc en fait, cette chanson Histoire vraie a été prise pour illustrer une publicité. À ce moment-là, on reçoit des messages, des amis qui nous disent « Mais Jean, c'est incroyable, il y a ta chanson qui est en train de passer en plein milieu de Top Chef. » Et en fait, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est... la fierté de ma mère, par exemple, qui tout d'un coup se disait « Mais en fait, on a bien fait de te faire apprendre la musique, on a bien fait de te laisser faire ça. »
C'est vous qui jouez ?
Oui, ça s'entend que c'est moi, parce qu'en fait, on entend mes ongles sur les touches du piano. Parce qu'en fait, je suis guitariste, et j'ai des ongles au niveau de la main droite un peu plus longs pour pouvoir pincer les cordes, et on entend mes ongles qui tapotent sur les touches du piano. Beaucoup d'intimité. Parce qu'en fait, je voulais que cette chanson ressemble à la façon dont je l'ai écrite. C'était en plein confinement et je passais mon temps sur un piano. Je crois qu'on a fait tous plein de choses pendant le confinement et notamment, on a tous essayé d'apprendre des choses. Et moi, je passais mon temps sur des tutos YouTube pour apprendre des trucs au piano. Et j'ai incorporé plein de trucs que j'ai appris à ce moment-là dans cette chanson.
Ah oui ?
Oui, pour les musiciens, c'est un peu précis, mais genre, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des neuvièmes. Et c'est un truc que j'ai appris à ce moment-là. Justement, c'est une sonorité très jazz, mais que j'ai essayé de calquer pour de la pop, en fait.
Un piano, la voix de Chien Noir, et un ou deux éléments, dont celui-ci, rien de plus, pour cette chanson qui s'intitule « Histoire vraie ».
En fait, quand on est dans un piano-voix, le moindre élément doit avoir beaucoup de sens. Le moindre élément que vous allez rajouter est supplémentaire. Et alors d'abord, de mettre cette basse, pour moi, c'était une façon de... Il y a une forme de modernité. C'est un synthétiseur. Et c'est le côté très terrien des choses. C'est la réalité des choses. Hein, la réalité est pas...
Ça ne vous ménage pas.
Non, ça ne vous ménage pas.
Elle raconte quoi, « Histoire vraie » ?
En fait, il y a des blessures d'enfance. C'est toujours à vif, même 30 ans après. Il y a des blessures qui sont à vif toute notre vie. Et il faut apprendre à vivre avec ça. Et pour moi, écrire cette chanson, c'était une façon d'accepter les erreurs qui ont été faites, d'accepter toutes les choses qui, en fait, en tant qu'enfant, ne nous concernent pas, mais qu'on a dans la peau. Pour moi, ça m'a permis de passer au-delà de tout ça. Je parle beaucoup de ma sœur dans cette chanson. Enfin, je pense à ma sœur quand je chante cette chanson, en tout cas.
C'est possible de savoir ce que sont ces blessures à vif ou pas ?
Je préfère pas en parler. Je veux pas être trop dans la précision. Souvent, dans mes chansons, il y a quelque chose de très vague. Mais c'est parce que je refuse d'être un donneur de leçons. Je veux que les gens puissent mettre leur propre expérience là-dedans.
On a rêvé, la nuit est passée comme ça. On a marché, la terre a tourné au moins une fois.
Il y a beaucoup de pauses. Le corps est posé, plein. Puis après, il se passe rien. Il y a juste la voix qui fait, qui dit trois mots. Et c'est tout. Enfin, il y a énormément de silence, quoi, dans cette chanson. Alors, peut-être pour qu'on se fasse pas trop peur, on s'est dit, on va remplir un peu plus avec des échos, des réverbes, des trucs comme ça.
Qu'importe. Qu'importe que le ciel se casse, tant qu'il y a des histoires vraies. Qu'on raconte à voix basse.
C'était trop tentant de pas dire à voix basse, comme ça. Il y a un petit côté un peu théâtral, en fait. Les chansons, en fait, c'est comme des occasions d'y aller à fond sur plein de trucs. Pourquoi pas, quoi. On peut exagérer dans les chansons.
Vous, vous exagérez pas.
Pourtant, j'ai déjà l'impression d'exagérer. Il y a énormément de défauts. Je voulais que ce soit pas parfait. C'était le but. Je voulais que ce soit un peu pété, quoi. Parce qu'en fait, c'est une histoire vraie. Et on n'allait pas surproduire une chanson qui parle d'une chose aussi sincère que ça.
Quand t'as aimé, c'était ton sang qui courait dans tes veines. Et à ton tour, quand tu courais, c'était toujours un pain de haleine. Une fois perdu, tes pieds te retenaient comme ils pouvaient sur la plaine. On a toujours fait ce que l'on voulait, parce qu'il y a la liberté. Il y a des histoires vraies qu'on raconte à voix basse.
Histoire vraie, au pluriel, c'est le titre du mini-album de Chien Noir. Il sera en concert à la Boule Noire à Paris le 18 avril et au Printemps de Bourges le 22 avril aussi. Koyen Guyen a réalisé Pop & Co avec Loïc Frapsos et Philippe Duclos ce matin. Ilinka Negulesco a préparé l'émission et Jean-Baptiste Audibert assure la programmation musicale. La semaine prochaine, Pop & Co et Michel Polnareff suivront Arnaud et Stevie Wonder. À samedi.